rencontre.
Présenté par Anne Constantin.
Claire-Lie, bonjour.
Bonjour.
Merci donc de venir dans nos studios de Radio Accor. D'emblée, je voudrais vous rencontrer sur le thème du paradoxe. Paradoxe déjà de votre nom, vous êtes cambodgienne. Lee, c'est le nom de votre mari qui est mort. Et Claire, c'est un prénom que vous avez choisi puisque vous vivez en France depuis 1980. Alors, paradoxe social, culturel, religieux, vous êtes tout ça à la fois. Vous êtes fille de la grande bourgeoisie cultivée de Battambang au Cambodge, bouddhiste, avec un bon karma. C'est le premier chapitre. Mais deuxième chapitre, en avril 1975, tout bascule avec les Khmers rouges. Et vous vivez l'enfer pendant 4 ans, jusqu'en 1979, dans les rizières. Et puis, vous êtes délivrée en 1979, et vous choisissez d'émigrer en France. C'est l'exil avec le long parcours du combattant, pourrait-on dire, de l'émigré.
Oui.
Et l'initiation. Alors, troisième chapitre, avec cette conversion, une conversion qui n'est pas banale, vous vous en prenez au Dieu de l'Occident, et c'est lui qui est à vos côtés, et vous embrassez la foi chrétienne, mais pas comme tout le monde. Alors Claire-Lie, j'ai résumé en très peu de mots ce qui fait partie de votre vie, ce qui est votre livre, un testament revenu de l'enfer. Alors nous allons commencer donc par le premier chapitre, la vie heureuse d'une jeune femme au Cambodge.
Oui, en effet, que mon nom même, c'est un peu paradoxal, si on peut dire, mais j'y tiens. J'y tiens à ce qu'il y a le prénom Claire, qui reflète bien ma foi chrétienne et surtout la spiritualité de Saint François d'Assise, qui est une spiritualité très proche de la spiritualité bouddhique, finalement. On peut faire plein de parallèles entre François d'Assise et Bouddha Sakyamuni.
Bouddha Sakyamuni, c'est celui que vous avez culturellement dans votre jeunesse.
Bouddha Sakyamuni, c'est bien le maître, c'est le fondateur du bouddhisme, voilà, qui est né au 6e siècle avant notre ère. Et Claire-Lie, ça veut dire aussi que je suis en France, j'ai la nationalité française. Mais je ne suis pas une Française comme tout le monde, rien peut-être que mon accent, ça vous le dit. Non, une Française venue d'ailleurs.
Mais une Française qui s'exprime bien en français, qui maîtrise toute cette langue depuis l'enfance, puisque je le disais au début.
Quand j'étais jeune, parce que le Cambodge était sous protectorat français, et nous avons copié beaucoup de choses à la France, et la culture française marque quand même le Cambodge. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont appris tout petit nos ancêtres les Gaulois. C'était pas très cohérent, mais enfin. Et la culture française, parce que pour connaître une culture, il faut vivre dedans. Même si j'ai appris par des œuvres littéraires, des œuvres philosophiques, je ne pénètre pas vraiment la culture française.
Vous avez pourtant été élevée chez des religieuses.
Oui, mais
au Cambodge,
mais il y avait un blocage avec les religieuses. Un blocage important.
Un blocage contre les Occidentaux. Elle représentait l'Occident, en fait.
C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez les religieuses à l'âge de 11-12 ans, je viens d'une famille très bouddhiste. Mon père était un bouddhiste convaincu, mais très ouvert. Et j'ai reçu déjà par ma famille une identité très marquante, très marquée par le bouddhisme. Et quand je suis arrivée chez les religieuses, ce qui ne va pas, c'est qu'elle avait changé mon prénom. Oui, mon prénom d'origine, c'est Chai-un, c'est un prénom un peu à tonalité chinoise, parce que mon grand-père paternel était chinois. Chai-un, ça veut dire lumière du nuage à l'aurore. Et les sœurs ont trouvé que ce prénom est imprononçable, difficilement retenable. Alors, elle m'a donné un prénom de Véronique. Alors ça m'a fait révolter parce que j'ai dit que on n'a pas le droit de changer mon prénom. Et ça a bloqué tout. et même mes études. Mon père a dû m'enlever de ce pensionnat.
Mais néanmoins, vous avez fait des études. Vous avez fait des études de philosophie.
Oui, après, mon père a mis dans un lycée français, qui est le lycée Descartes. Le lycée Descartes marche avec l'Académie de Montpellier. Donc, sur mes diplômes, c'est marqué l'Académie de Montpellier.
Et retour aux sources, vous n'êtes pas très loin, puisque vous vivez en France.
Oui, quand je suis arrivée en France, j'ai dit, moi, je veux pas rester dans les grandes villes, je voudrais partir loin. Et on m'a dit, mais vous voulez aller où? Dans le nord ou dans le sud? Imaginez, mais quelle est la différence entre le nord et le sud de la France? On m'a dit, mais dans le nord, les gens, il paraît qu'ils sont plus sympas, plus fidèles, mais il n'y a pas assez de soleil. Dans le sud, les gens, ils sont chaleureux, mais ils sont pas très fidèles. Mais il y a le soleil. J'ai dit, bon, écoutez, moi, l'expérience me dit, les gens sont comme ils sont. Je vais donc choisir pour le soleil. Je vais aller dans le sud. C'est beaucoup plus sûr.
Alors, le soleil, donc, c'était cette première jeunesse. Et vous avez eu un fils de votre mari.
Oui.
Mais, brusquement, brutalement, on est obligé de faire court, vous allez vivre l'enfer, oui, en 1975. Quelque chose auquel vous n'étiez absolument pas préparé. Mais peut-être que votre culture bouddhiste, votre éducation vous a permis, votre intelligence vous a permis de survivre.
Oui, je pense que avant 1975, c'est la date où mon pays a changé et la fin de la guerre du Vietnam. Alors, à la fin de la guerre du Vietnam, donc, où le Cambodge a basculé dans ce qu'on appelle le génocide Khmer Rouge, qui a duré 4 ans, de 1975 à 1979. Avant 1975, j'avais une vie normale, heureuse. Je suis née dans une famille bourgeoise, la grande bourgeoisie khmer. Mon mari était banquier. Moi-même, je travaille comme responsable de l'Institut des traditions des œuvres littéraires au ministère de l'Éducation nationale de Phnom Penh, tout en enseignant la philosophie.
Donc, tout ça est balayé d'un seul coup.
Tout ça est balayé en 24 heures.
Et ça, c'est l'horreur abyssale, en fait.
Alors, quand ça vous arrive dans un laps de temps si court, vous restez hébété. Vous restez hébété, vous raisonnez pas tellement. On est hébété devant tant de violence, devant tant de changements. On a l'impression qu'on s'est perdu soi-même. Et la première réaction, vous savez, c'est pour ça que le spirituel est très important. Pour survivre dans cette vague de violence, on doit aller chercher une ressource quelque part au fond de soi-même. Et la ressource que j'ai au fond de moi, c'est ma tradition bouddhiste. Mm-hmm. Et ce qui est, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je trouve cela magnifique. Magnifique dans le fait que j'ai toujours utilisé les éléments bouddhiques pour arriver au Dieu de Jésus-Christ.
Vous l'avez transformé, en fait.
Je ne sais pas si je l'ai transformé ou c'est le Seigneur, mais j'en sais rien. Ce que je fais, c'est que la première chose, c'est je vais retourner vers l'enseignement du Bouddha en 1975 pour pouvoir faire face à cette vague de violence. Je me retourne vers l'enseignement du Bouddha qui dit que ici-bas, rien n'est éternel.
Alors, c'est Khmer Rouge quand même. Comment explique-t-on cette violence, cette barbarie?
Devant une telle violence, on n'a pas d'explication possible. Vous savez, le mal, quand il est vraiment là, on le subit. On le subit et il faut beaucoup, vraiment beaucoup de temps pour faire l'analyse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les Khmer Rouges, c'est pas une génération spontanée. Il y a bien des éléments économiques, des éléments sociaux qui ont préparé l'avènement des Khmer Rouges. Tout ça, en relisant tout ce qui se passe au Cambodge, on va bien comprendre pourquoi les Khmer Rouges puissent arriver dans ce pays, parce que déjà, il y avait de l'injustice sociale. Toute violence, il y a une source quelque part. Il y a une cause quelque part. Et la cause qu'on n'a pas voulu voir jusqu'au jour où la violence éclate. La cause où tout le monde ferme les yeux devant parce que c'est trop dur pour analyser, parce que ça nous agace de regarder ces choses en face, donc on essaie de tourner le regard ailleurs, jusque cela nous est lancé à la figure, quoi. Voilà ce qui se passe pour les Khmer Rouges. Donc, je crois que le temps nous est, nous n'avons pas beaucoup de temps pour analyser toutes ces causes.
Oui. Alors, donc, vous survivez quand même et vous vous adaptez. Et alors, vous prenez donc, un bouc émissaire.
Selon l'enseignement du bouddhisme, c'est dire que quand on se trouve, j'allais acculé à des sentiments aussi mauvais tels que la haine, la colère, la révolte que j'ai éprouvé en moi envers les Khmer Rouges, il faudrait construire un ce qu'on appelle un objet mental dans le bouddhisme. En fait, Bouddha nous conseille que dans tous ces éléments, dans toute la violence, il faut garder la sérénité. Mais moi, j'arrivais pas. J'étais trop faible. Parce que, vous savez, pour garder la sérénité et la tranquillité dans de tels événements, il faut avoir une force spirituelle immense.
Moi, je l'avais pas. Physiquement, moralement,
physiquement, moralement.
Vous souffriez de la faim, vous souffriez du travail.
De la faim,
Donc, la vie, c'était l'horreur.
C'était vraiment, il fallait survivre, quoi. Voilà.
Et vous avez survécu, donc, ces 4 ans?
Ben, j'ai survécu. J'ai survécu parce que je voudrais vivre.
Alors, il y a quand même un passage intéressant, c'est ce Dieu que vous prenez à témoin. Mais oui. Avec haine et violence, et quelqu'un à qui vous parlez finalement, puisque vous n'aviez le droit de parler à personne.
Oui. Ce Dieu, c'est simplement, au début pour moi, qui était bouddhiste, ce Dieu, c'était simplement un objet mental que j'ai construit. Et je ne me préoccupais pas s'il existait ou non, c'était pas mon problème. Mais ce qu'il me faut, c'est un objet mental, un bouc émissaire sur qui je peux déverser ma colère et ma haine. Parce que vous savez, de tels sentiments, si on n'arrive pas à l'extérioriser, on va être vite tombé dans la vraie folie, quoi. On sera entraîné. Donc il faut bien extérioriser, même la psychologie nous explique très bien, et c'est omniprésent dans le bouddhisme. Dans ce cas, il fallait faire un objet mental. Donc j'ai fait l'objet mental selon ma tradition d'origine, mais pour qu'il soit un peu plus vrai, vous voyez. J'ai besoin de taper dessus, mais ma colère est tellement grande et il faut que celui sur qui je tape, qu'il ait un peu de consistance.
Donc vous avez pris carrément Dieu.
Oui, donc j'ai dit que ben on a quand même un point commun, le Dieu des Occidentaux et moi. C'est-à-dire que ce que je savais de lui est que la tradition occidentale dit que sa puissance remplit ciel et terre. Et à ce moment-là, dans le camp de Pol Pot, ma haine, ma colère remplissaient les terres. Donc, il est vraiment un témoin à ma taille.
Quel orgueil!
Ah oui, on m'a toujours dit que je suis très, très orgueilleuse. En fait, c'est un défaut peut-être, mais cet orgueil-là m'a permis de survivre.
Aussi.
C'est une grande force. Et l'orgueil devant les Khmer Rouges, pour moi, c'est de survivre.
Et de ne pas se laisser prendre, en fait. De pas jouer leur jeu.
Oui, parce que c'est l'orgueil aussi, parce que ils ont tué tous les miens. Ils ont tué mon mari, mon père, mes frères. Je ne me vois pas pourquoi je vais aller mettre ma compétence.
À leur service.
À leur service, non.
Alors, vous êtes mère, ça veut dire cambodgien, et on va faire une pause musicale avec une musique de votre pays, parce que vous êtes française, mais aussi khmer.
D'origine khmer.